troisième temps de notre série consacrée à l'histoire de la guerre froide. Aujourd'hui, la guerre froide vue d'en bas. Après avoir évoqué lundi l'invention et l'histoire de l'OTAN, puis hier avoir suivi les pas de Simone Faïf des deux côtés du mur dans le documentaire d'Anaïs Quin et de Françoise Camard que vous pouvez réécouter sur le site internet de France Culture comme toutes nos autres émissions, et avant demain de nous intéresser à la façon dont les deux blocs ont continué à dialoguer et à discuter pendant cette période, nous allons ce matin avec Anaïs Quin qui a préparé toute cette semaine avec nous, nous demander si cette même guerre froide a pénétré profondément dans le tissu politique et social français. Nous nous appuierons en cela sur un livre paru il y a 3 ans aux éditions du CNRS, La guerre froide vue d'en bas, dont nous recevrons 2 des directeurs de cet ouvrage. Olivier Butner, il est ingénieur de recherche à l'Institut d'histoire du temps présent, où il a géré le réseau des correspondants de cet institut dans l'ensemble de la France et des départements. Et Philippe Buton, il est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Reims.
Le gouvernement arrêtait des mesures exceptionnelles pour rétablir la liberté du travail et assurer la sauvegarde de notre industrie. Devant les violences commises par certains éléments sur les agents des forces de police, des renforts étaient acheminés rapidement vers les points où les occupations des mines se poursuivaient.
Voilà pour cette première archive que vous avez choisie. Anaïs Quin, bonjour.
Bonjour.
Alors, une archive qui date du 28 octobre 1948. Pourquoi pensez-vous qu'il était nécessaire de revenir à cette grève des mineurs à Valenciennes pour ouvrir notre discussion?
Dans ces années 47-48, on a toute une série de grèves, ça n'est pas la seule. Et l'ambiance décrite dans les actualités françaises, donc les actualités cinématographiques dont vous venez d'entendre un extrait, le ton décrit un moment particulièrement insurrectionnel, qui peut étonner aujourd'hui, mais qui reflète très bien peut-être cette inquiétude 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le territoire français.
Bonjour Olivier Butner.
Bonjour.
Bonjour à vous Philippe Buton.
Bonjour.
Merci d'être nos deux invités. Vous avez dirigé avec Michel Hastings donc un ouvrage collectif paru aux éditions du CNRS et donc concocté par l'Institut d'histoire du temps présent dont vous êtes membres tous les deux sur cette guerre froide vue d'en bas. Même question qu'à Anaïs Quin. Pourquoi ce moment des grandes grèves de 1947-1948, Philippe Buton, est-il important pour notre projet, pour notre sujet, de travailler sur la façon dont, eh bien, cette guerre froide a pénétré, profondément ou non, dans l'imaginaire français de ces années 50 en particulier?
Eh bien, déjà, l'archive que vous avez donnée me semble intéressante parce qu'elle pose 2 problèmes évidents. Classiquement, vous avez dit « c'est la guerre froide ». Oui, bien sûr, c'est de la guerre froide, mais qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est de la guerre froide? Méthodologiquement, c'était la plus grosse difficulté que nous avons rencontrée. C'est où la guerre froide? Quand vous, avec Olivier Butner, on a animé ce réseau des correspondants, on envoie plusieurs dizaines, en général des collègues du secondaire ou des doctorants qui vont dans les archives départementales travailler sur ce sujet-là.
Il n'y a pas d'archives marquées guerre froide.
Il n'y a pas d'entrée guerre froide dans l'index. Donc là, vous avez une grève. Bon, les grèves ouvrières.
Là, on est plutôt dans l'inquiétude d'une troisième guerre mondiale. Rien ne dit
voilà,
que c'est une guerre froide, mais en tout cas d'une insurrection qui peut amener une puissance étrangère et éventuellement à gouverner la France.
Voilà, mais c'est pas dit dans l'archive.
Non, pas du tout.
On le sait, nous. C'est-à-dire qu'il y a quand même une difficulté. C'est-à-dire qu'on a tendance, nous, à surdéterminer, comme dirait l'autre, c'est tel et tel événement parce que nous savons que. Donc ça, c'était très, très difficile. Là, vous avez une conflictualité sociale, vous avez une grève, mais des grèves, il y en a eu
bien avant.
Bien avant.
Il y en aura après.
Bon. Donc, notre travail était de voir à quel moment un événement intérieur était analysé par le prisme du conflit est-ouest, américano-soviétique, pour aller vite. Ça, c'était la grande difficulté.
De débusquer la guerre froide.
Juste sur ces grèves, une petite image, c'est une archive qui est en ligne, dans une revue qui s'appelle « Allô, encre, ici dragon ». C'est en fait la revue de la brigade parachutiste qui se trouve en Bretagne à l'époque et qu'on va envoyer sur les sites.
Mmh. Les sites de grève.
Le site de grève. Et où ces militaires parachutistes, qui se préparent d'ailleurs pour partir en Indochine, vont sur place et racontent dans leur petite revue comment les gendarmes se font massacrer. Et deuxièmement, on profite d'ailleurs pour faire dire, bon, on appose des affiches pour recruter, hein. Si vous vous embêtez dans les mines, venez, vous verrez du pays. C'est à lire, hein, c'est en ligne, c'est à regarder, c'est une très bonne archive.
Allô, encre, ici, ici dragon. Dragon.
Parce que c'est l'insigne qu'ils ont sur l'épaule.
Mais alors, justement, ça, dans cette archive, la violence relativement surprenante à ce moment-là...
Ça ne surprend pas les parachutistes, ça les fait même sourire, j'allais dire. Mais bon, c'est pour eux un événement, oui, comme ça.
La question est peut-être, puisque c'est vous qui gériez le réseau des correspondants de l'Institut d'Histoire du Temps présent, qui sont présents dans tous les départements et qui donc ont depuis très longtemps, depuis la naissance de l'Institut et même avant la naissance de l'Institut, travaillé à des grandes enquêtes comme celle-ci. Qu'est-ce que vous leur disiez à ces correspondants, justement, de ce que disait Philippe Buton à l'instant ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez chercher dans les archives ? Comment vous allez trouver la trace de la guerre froide, Olivier Buttner ? Comment vous leur présentiez la situation pour qu'ils puissent justement distinguer ce qui était du ressort peut-être de ce que disait Philippe Buton, c'est-à-dire de ce conflit supranational, et ce qui était du ressort d'une vie sociale, culturelle, et syndicale et politique normale.
En fait, quand je suis arrivé pour gérer ce réseau en janvier 2008, c'est d'Almeida qui avait eu l'idée
Fabrice d'Almeida.
Pendant 3 mois, j'ai fait le tour un peu des archives existantes pour voir qu'est-ce qu'on pouvait trouver. Et dans la première réunion, après on a demandé à Philippe de prendre ça comme directeur scientifique avec Michel Hastings. Et je tiens à dire qu'à la première réunion avec l'ensemble des correspondants, la première chose que nous avons fait faire, c'est de faire venir une directrice d'archives départementales. Mm-hmm. C'était celle des archives de loi qui nous avait dit « mais il n'y a pas d'entrée ». Donc, on va commencer. C'était un des grands travaux, ce qui expliquait, et de séparer. Avec cette difficulté aussi, pour les correspondants, qui avaient surtout une habitude de travail sur la Seconde Guerre mondiale, de montrer bien la séparation entre de voir la continuité entre la Seconde Guerre mondiale et la suite, et un événement nouveau qui était la guerre froide. Mmh. Et comment ça se passait. Si on reprend sur ces manifestations de 47, il y a une autre archive, celle de l'inspection générale de l'administration, une grande institution française et de la sortie de l'ENA. Dedans, vous avez par exemple, après ces grèves, on a la fermeture de 2 compagnies de CRS, une à Marseille, une en Provence, je crois, où ces compagnies de CRS étaient, infiltrées, on va dire ça comme ça, par le Parti communiste français. Donc on ferme. Et l'administration française fait son travail. Donc on envoie un inspecteur.
Ces compagnies CRS étaient soupçonnées de ne pas avoir
tout à fait dans un certain nombre, dans la rigueur.
Guillon avait fait un grand livre sur cette question. Mmh.
Voilà. Donc vous avez l'administration française qui va sur place et qui fait son rapport officiel. Je ferme, il me reste ça, j'ai tant de postes radio, j'ai ceci, j'ai cela. Mais qui dit aussi, bon, mais qu'est-ce que je fais des tant de tonnes d'huile que... il y a encore des tickets de rationnement. Mm-hmm. Qu'est-ce que je fais en même temps de tout ce que j'ai trouvé qui n'a rien à faire, à faire avec tout ça. Et on va trouver des petites marques. Et la grande difficulté était ça, c'est à chaque fois dans tous les débats, on avait 2 réunions par an. Michel et Philippe ramenaient à chaque fois sur, oui.
Michel Hastings et
Philippe Buton ramenaient à chaque fois sur, oui, mais, en quoi c'est la guerre froide, en quoi c'est bien local, et en quoi c'est pas la vie normale.
Et Philippe Buton, peut-être qu'il y avait un danger aussi à prédéterminer ce qu'on attendait de ces archives, c'est-à-dire peut-être chercher les conflits entre le Parti communiste et les autres partis politiques, les partis gaullistes locaux, les sections locales, qui prédéterminent le regard de l'historien et qui peut-être échappent d'autres dimensions de cette guerre froide vue d'en bas en cherchant des choses qui paraissent comme ça a priori évidentes.
Oui, de toute façon, méthodologiquement, la plus grande difficulté, c'est qu'on est complètement cannibalisé par le problème du communisme, quoi. C'est-à-dire que spontanément, nos correspondants, qui en plus, pour des raisons qui s'expliqueraient, ont un regard très politique sur l'histoire contemporaine. Au début, ils cherchaient du communisme. On en trouve plein dans les archives départementales. Mais en quoi est-ce de la guerre froide ? Alors, On a essayé de régler le problème de méthode en déterminant des marqueurs. Alors, il y a un marqueur évident et un marqueur qui l'est moins. Le marqueur évident, c'est lorsque un événement intérieur est transcrit par un aspect international. Exemple, ne pas parler de CGT, mais de CGTK. Cas comme une forme, là c'est clair que vous êtes dans une perspective d'approche qui est classiquement de guerre froide. Et puis le deuxième, il y a d'autres marqueurs bien sûr, mais le deuxième type d'approche, c'était d'avoir listé des signes identitaires de la conflictualité, par exemple. Et donc, c'est pour ça que les grèves de 48, j'imagine, ça vous a frappé. Parce que nous identifions la guerre froide comme une sorte de grande phase de conflictualité.
Alors, ce que vous montrez dans le livre, c'est que c'est plutôt l'attente d'une conflictualité dans beaucoup de moments. C'est-à-dire que dans ce travail que vous avez mené, qui est publié au CNRS Éditions, on a l'impression d'être parfois un peu dans le désert des Tartares. C'est-à-dire qu'on est en train d'attendre. On attend quoi? On attend la levée subversive des communistes dont on pense qu'ils vont faire une subversion, ou on attend la grande guerre nucléaire qui peut-être arrivera à un moment ou à un autre, Olivier Buttner?
Je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf sur un point. C'est sous la quatrième, il y a une opposition très forte entre le pouvoir militaire et, entre guillemets, le pouvoir civil. C'est-à-dire, pour le pouvoir militaire, c'est l'ennemi intérieur est présent, c'est ici et maintenant, hein, c'est le parti communiste, on le donne. Et de l'autre côté, vous avez le ministre à l'intérieur avec les préfets et les IGAM qui disent non, attendez, tout ça c'est régulé, on est sorti de guerre, la violence ordinaire elle est gérée par le ministère de l'intérieur, on n'est pas en état de guerre, tout ça ce sont des étapes, on passe du pied, comme on dit, du pied de guerre au pied de paix et il y a des instances. Ce que refusent les militaires. Et la loi de 1950 qui crée la défense en surface, qui est mal ficelée, pose ces problèmes. Et il y a à longueur de temps, la difficulté entre pouvoir civil et militaire.
Alors, vous avez choisi une autre archive, Anaïs Quin, une archive du 20 février 1957.
Voilà, une archive qu'on pouvait voir également aux actualités françaises cinématographiques. Donc, les Français le découvraient avant la projection de leur film. C'est un exercice d'alerte nucléaire qui se passe à Stockholm, mais interprété et diffusé par les journalistes français.
Stockholm est la capitale tranquille d'un pays tranquille. Et pourtant, Stockholm, à qui sa situation établie sur 8 îles, a valu le nom de Venise du Nord avec tous les aspects paisibles que cela comporte, est la seule ville au monde qui ait envisagé la construction d'abris anti-atomiques. Alerte ! Pendant que des abris souterrains sortent les escadrilles de défense, la population, avertie par le cri des sirènes, se précipite avec discipline dans des abris creusés à 30 mètres sous terre et dont les portes de béton de 120 tonnes obturent hermétiquement les ouvertures. Ce premier exercice a réuni plusieurs milliers de personnes dans cet abri qui peut en contenir 20 000, grâce à ses galeries adjacentes. La fin de l'alerte ne libère pas automatiquement la population. Il faut vérifier auparavant la puissance des radiations laissées par le bombardement. Ainsi, Stockholm se classe au premier rang des nations prévoyantes. 15 abris du même genre sont en construction. Et puisque par bonheur ils n'ont pas à répondre à leur destination de principe, ils servent de garage.
Voilà pour cette archive donc du 20 février 1957 diffusée dans les cinémas. Philippe Buton, cette crainte de la guerre nucléaire, vous l'avez perçue avec les correspondants de l'IHTP un peu partout dans le territoire français pendant les années 50.
Alors il y a deux phases. Il y a la première phase donc dans les années 50 où effectivement on l'aperçoit, mais parfois, ça prend des aspects un peu étranges. Mais quand même, globalement, on l'aperçoit. On a quelques signes, par exemple, le préfet du Doubs, si ma mémoire est bonne, qui publie un petit communiqué dans la presse au moment du déclenchement de la guerre de Corée, en disant « Mais arrêtez de faire des stocks, les magasins ont commencé à être vides. » En plus, il y a les Suisses qui traversent la frontière pour venir voler notre huile et notre sucre. Bon. Donc, vous avez cette crainte qu'on voit réactivée à d'autres reprises. comme en 56, dans le même département, après au moment des affaires hongroises, où la directrice du musée des Beaux-Arts de Besançon fait évacuer la totalité de ses collections,
ah oui,
parce que Besançon va être bombardé. Et elle dispatche ses collections dans les différents châteaux de la région, sauf dans le château qui appartient au consul des États-Unis, parce que celui-là, il va évidemment être bombardé. Donc, il y a eu ces phénomènes que l'on perçoit. Et d'un autre côté, ça semble pas très...
On l'entend d'ailleurs dans ce reportage, il y a une certaine dramatisation, on s'amuse à mettre en scène la peur. Donc on sent bien que la peur n'est pas tout à fait réelle malgré tout.
Olivier connaît bien la question. Je vais revenir justement sur les deux points que tu viens d'évoquer. La première chose, dans le communiqué du préfet qui s'appelle Ottavioli, la fin est très belle. Hein. Il termine l'appel au bon sens des habitants du Doubs en 56, il n'y a plus de place en France, ni en Franche-Comté, pour des citoyens qui pèsent leur courage et leur confiance en plaçant dans les plateaux de la balance quelques kilos de sucre et quelques litres d'huile. Bon, c'est très beau. Quant au déménagement, la mise en caisse de la richesse du musée des Beaux-Arts de Besançon, ce qui est intéressant, c'est que la directrice du musée prévient le préfet qu'elle va mettre en caisse et deuxièmement prévient le militaire responsable de la zone, mais prévient surtout la direction des Beaux-Arts de Paris, qui lui disent oui madame, mais prenez contact avec madame Rose Valland, responsable,
qui était celle qui avait en particulier,
et qui était responsable et
évacué pendant la guerre.
Lui dit mais nenni madame, ne mettez pas ça dans les châteaux, mettez ça dans une mine de sel, puisqu'elle connaît ça. Mais donc le gros problème, c'est que la mine de sel est à Nancy, trop loin et tout. Les correspondants on a fait un petit article là-dessus qui est sous HAL SHS. Il y a plusieurs, le réseau des correspondants fait ça dedans, mais c'est fantastique. Et pour aller jusqu'au bout du raisonnement, parce que comme quoi la guerre froide a marqué, parallèlement, donc ça s'est mis en caisse et puis ça se tasse. Je veux dire. Et à ce moment-là, un autre ami de Besançon, qui est le directeur du musée des Beaux-Arts des Beaux-Arts de Paris, qui devait faire une exposition sur la Tchécoslovaquie et qui a été arrêté.
L'exposition a été arrêtée.
L'exposition a été arrêtée. Dit à sa copine et collègue, mais puisque tu as tout mis en caisse, envoie-moi ça à Paris. On va faire une très belle exposition sur l'art à Besançon et du musée de Besançon, qui était comme...
C'est l'occasion.
C'est l'occasion, et ça se fait. Il y a une grande exposition dont tout le monde... Voilà, quoi.
Il y a un élément très intéressant là-dedans, c'est l'effet de seuil. C'est-à-dire à partir de quel moment on prend l'alerte très au sérieux et des mesures sont décidées par la préfecture, par les directions d'institutions, Philippe Buton, qui prennent acte d'une menace réelle. Et là, on a bien entendu que cette menace ne l'était pas justement réelle.
Alors, on a du mal encore aujourd'hui à voir à caractériser le caractère sérieux ou non de cette menace. Par exemple, sur les abris anti-atomiques, il y en a pas d'un point de vue personnel. C'est une personne construite.
Il y en a sous nos pieds aujourd'hui,
à la maison de la radio.
Mais il y a en revanche des abris pour les institutions, c'est-à-dire que les autorités ont des abris anti-atomiques, etc. Mais pas la population. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère qu'on va tenir, si les Russes attaquent, bon, tout ça est un peu compliqué. Donc, le caractère sérieux ou non de la menace, j'ai encore des doutes.
Olivier Buttner.
Un des exemples, c'est aussi, par exemple, la construction sur l'école des ponts à Paris, d'un abri anti-atomique qui pouvait abriter 1600 personnes, susceptibles de gérer le trafic en France après bombardement atomique. Et vous avez aussi, ce que Isabelle Miquelot en parle pas mal, c'est que vous avez très peu d'abris anti-atomiques, parce que la solution à partir des fins des années 50, c'est le déplacement des populations.
Mais tout de même, moi j'ai découvert en vous lisant, Olivier Buttner, combien il y avait une crainte effectivement d'une sorte d'insurrection armée du Parti communiste, bien que le Parti communiste, à la fin de la guerre, ait rendu les armes, qu'il y avait une crainte de cache secrète d'armes du Parti communiste, qu'il y avait des rumeurs, je ne sais si elles étaient réelles, d'entraînement dans des camps, dans des hôtels de tourisme et travail dans les Pyrénées, d'entraînement par des troupes communistes qui s'apprêteraient à faire une insurrection. Enfin, il y a tout de même un climat dont on peut dire qu'on l'appellerait climat de guerre froide, tout de même, vu de la part des autorités, en l'occurrence.
Oui, et tout ça, vous les retrouvez, enfin, ce que vous venez de signaler, on le retrouve dans les archives à Paris, dans les archives nationales. Et ce qui est intéressant, ce que je disais à Philippe avant Buton, avant d'arriver, juste avant d'arriver, c'est que, en fait, c'est pas simplement un petit rapport d'un préfet, c'est vous avez un bordereau qui est renéoté,
oui,
et sur lequel il y a marqué au départ attentat, cache d'armes, arrestation.
Et là, on est avant la guerre d'Algérie.
Et on est avant la guerre d'Algérie.
Mais on est aussi dans une côte commune de la guerre d'Espagne, parce que tous ces réfugiés espagnols qui se trouvent dans ce grand sud-ouest français et oui, aussi dans la région parisienne sont suspectés. Certains d'ailleurs auront élaboreront des stratégies pour éviter certaines rafles préfectorales de manière plus ou moins efficace. Malgré tout, et ça pour le coup, on ne peut pas ne pas le prendre au sérieux, certains vont être expulsés du territoire français. En tant que menace, c'est ce qu'on appelle l'opération Bolero Paprika. Oui. Parfois, certains ne reviendront d'ailleurs jamais sur le territoire français. Je crois que ça se passe à la fin des années 50, au début des années 60, Philippe Buton. Mais là, on est dans quelque chose de très sérieux. On expulse une population ciblée par peur de sa puissance subversive sur le territoire français.
Alors là, c'est très clair que cette période de la guerre froide rejoue les guerres du passé.
Oui.
Et fondamentalement, deux guerres, celle de la guerre d'Espagne dont vous parlez, et la Deuxième Guerre mondiale. Il est fascinant de voir quand les plans de défense du territoire, la défense de surface qui devient la défense opérationnelle, quand on détermine qu'il va y avoir des maquis insurrectionnels, on reprend la carte des maquis de la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, et c'est les Rouges qui sont toujours là. Là, je crois qu'il y a une sorte de d'imaginaire vichiste quelque part, a été républicanisé.
Il infuse la République.
Voilà, une sorte de pérennité de l'État. Hein. Quelque part, les communistes, c'est quand même les désordres, c'est quand même les agents de l'étranger, c'est toujours les mêmes. Quelque part, il y a de ça. Hein.
Et puis, il y a d'autres endroits où il y a effectivement présence sur le sol français de troupes étrangères. Ce sont les bases américaines, comme celle d'Evreux, avec un reportage de 5 colonnes à la une en 1963.
C'est la quintessence même de la vie américaine de province. Les visages, le comportement sont du Middle West plutôt que de New York. Pour mieux se connaître ou pour se sentir moins seul, on porte son nom bien affiché comme dans un congrès. Ces coquets bungalows d'une banlieue typiquement américaine se situent pourtant en territoire normand, dans une ville qui s'appelle en américain Evreux, c'est-à-dire Évreux. Cette base fut française, puis allemande, puis enfin américaine. Les rites militaires tiennent maintenant à la fois de la France et de l'Amérique. Le major Calhoun est sur le point de partir. Il est resté 38 mois sur cette base. Je m'étonne qu'il ne parle pas un mot de français. Il me dit, comme la plupart de mes compatriotes, je suis un peu paresseux.
Le soir, à 6 heures, le travail est fini. Jean ouvre la porte.
Et pourtant, les occasions d'apprendre le français ne manquent pas dans cette base. Une technique perfectionnée permet simultanément de corriger la prononciation de 18 élèves.
Bonjour Jean.
Sa fille est petite.
Sa fille est petite.
Bien. Sa
fille est petite. Voilà pour cet extrait du reportage de 5 colonnes à la une en 1963, décrivant ce qu'était la base d'Evreux. Ou Devereux, je ne sais plus comment on disait.
Ça a l'air très compliqué à prononcer.
Ça a l'air très compliqué.
En anglais américain.
Exactement. Alors tout de même, cette présence des bases américaines, c'est une présence qui tient justement en partie à ce qu'on appelle la guerre froide. On en discutait lundi avec nos invités, Jenny Raflick et Maurice Weiss, Philippe Buton. Il y a l'OTAN, il y a le pacte atlantique, etc., etc. Il y a tout cela qui fait que sur le territoire français, il y a des troupes qui sont considérés par certains comme des troupes d'occupation, en particulier par les communistes.
Oui, alors là aussi, les communistes rejouent à la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est les nouveaux occupants, et donc vous avez toute une thématique qui va aller très loin, puisque Jules Moch est systématiquement associé aux nazis, ce qui pose...
Jules Moch qui était ministre de l'Intérieur à l'époque et qui avait réprimé les grèves de 47-48.
Oui, et donc systématiquement, tous les opposants communistes aux communistes sont présentés comme des collaborateurs. Comme... Donc vous avez là... On est clairement dans une perception internationale du conflit politique. Mais en ce qui concerne la présence des Américains, globalement, le Parti communiste échoue à donner un énorme caractère populaire à cet anti-américanisme sur le thème des forces d'occupation. C'est-à-dire qu'il est extrêmement puissant, donc évidemment il est capable de faire, il fait quand même 25% pendant toutes les années 50 des exprimés. Bon, donc, mais enfin, il a du mal à aller au-delà. Et puis, comme on l'a bien montré, je crois, les troupes américaines vivent côte à côte. Hein, il y a relativement peu d'échanges. Mm-hmm. Hein, donc, fondamentalement, ils vivent côte à côte.
Mais quand même, on compte une trentaine de bases dans les années 60. Une trentaine de bases américaines.
Oui,
sur le
il y a une présence réelle, massive, qui se caractérise par les accidents de la route, parce qu'ils conduisent comme des, je crois, au Far West. Bon,
ils s'en retournent en Amérique, c'est soudain, après un accident de la route qui a écrasé donc un homme. Un accident à Melun et dans la vie ouvrière, vous citez cet extrait, Gaston Montmousseau, qui était un des responsables politiques du Parti communiste, dit que le sol de France leur brûle les pattes à ces Américains. Si vous vous trouvez seul en face de plusieurs, détournez-vous et crachez, sifflez partout où ils se trouvent, au ciné, au café ou dans la rue.
Oui. Alors il y a vraiment un anti-américanisme extra. C'est le moment de la lutte contre la
colonisation.
Voilà. Bon, tout ça. Mais tout ça. Ne prend pas énormément en dehors de la sphère de la contre-société communiste.
Et là, d'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une remémoration de la Seconde Guerre mondiale et de ce qui se passait autour des camps américains, des regroupements de troupes américaines sur le sol français? Je pense notamment à ces histoires d'accidents de voiture qui sont quand même bien plus nombreux à la fin des années de guerre, en 44-45 sur le sol français, que dans ces années 60. Les Américains, malgré tout, ont appris à se comporter sur le sol français.
Oui, bien sûr. Assez rapidement, le discours anti-américain des communistes devient très artificiel. Mais ce qui se passe quand même, c'est, il me semble, c'est une hypothèse, mais il me semble que le discours anti-américain ne marche pas parce que, au fond de la population française, il y a bien la crainte des soviétiques. Et l'idée quand même que les Américains sont là pour une bonne raison. Bon, certes, ils se comportent mal, mais ce sont quand même nos amis, nos alliés. Le grand problème, c'est qu'après 1962, et votre archive date de 63, cette coexistence n'apparaît plus fondée. Parce que ça, c'est le grand mystère et la grande spécificité française. La population française croit être sortie de la guerre froide. Et ça, on voit comment cette conflictualité sociale très forte dans les années 50 devient infiniment plus faible dans les années 60.
Donc on arrive à dater l'émergence d'un certain sentiment de sécurité une quinzaine d'années après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, moi j'ai le sentiment. Alors, on a un certain nombre de marqueurs. Il y a un marqueur qui me semble très net. C'est dans la littérature des coiffeurs, si j'ose dire. C'est Paris Match. Il y a une contribution dans le livre de Joël Beurrier qui montre bien comment il y a un retournement complet de l'atmosphère de Paris Match en 1962, à l'été 62. C'est-à-dire que, en gros, tant que la guerre d'Algérie est là, tous les événements sont perçus comme dramatiques, comme anxiogènes, même s'ils ne le sont pas. Alors qu'après 62, tous les événements, même dramatiques, comme la crise de Cuba, sont perçus de façon apaisée.
Olivier Buettner, tout de même, ce qui est intéressant, c'est que ce travail que vous avez mené avec les correspondants de l'Institut de l'Histoire du Temps Présent et qui donne lieu donc à ce livre qui s'appelle « La guerre froide vue d'en bas » paru au CNRS édition, c'est tout de même de démêler ces questions, par exemple, de guerre coloniale par rapport à la question de ce conflit potentiel donc entre Est et Ouest. Ça doit être extrêmement difficile. C'est simple quand vous travaillez sur les années au début des années 50 et que la guerre d'Algérie n'est pas encore déclarée. Mais pendant ces années 54-62, par exemple, qu'est-ce qui est du ressort de la crainte de la guerre nucléaire ou de la guerre liée au conflit américano-soviétique ? qu'est-ce qui est du ressort de la guerre coloniale? C'est, tout ça, c'est très intriqué tout de même, Olivier.
Oui, il faut être, c'est vrai qu'au fin fond de la France profonde, l'important, c'est qu'est-il advenu? Où est notre fils, notre mari, notre gendre, qui est actuellement en Algérie? Ça, c'est évident. C'est le gros problème. Mais pour la défense du pain, en surface et défense du territoire, l'ennemi intérieur reste présent. C'est toujours le Parti communiste. Mmh. Il y a toujours les bases. Je voudrais revenir un tout petit peu sur les bases avec un point. Vous parliez de la formation des jeunes à la langue. Quand les bases ont fermé en 68, le ministère du Travail a dû mettre en place des formations pour les employés français employés dans les bases américaines, canadiennes ou anglaises, pour leur apprendre le droit du travail français.
Parce qu'ils travaillaient depuis si longtemps dans les bases américaines qu'en fait, qu'ils avaient oublié.
Donc il y a une formation mise en place par le ministère du Travail. Je veux dire, ça, c'est intéressant
de voir. Acculturer dans l'autre
pour
sens.
Pour l'acculturer dans l'autre sens, les Français qui ont confronté les Américains. Oui, il y a ce sentiment de, à chaque fois. Et une chose très intéressante sur la crainte après les années 60, hein, presque en 60, alors c'est à la fin de notre période. Il y a un exercice de défense dont on a peu parlé, de défense opérationnelle du territoire, où l'exercice est le suivant. On a largué 2 transal, donc ça fait 160 espions, entre guillemets, qui sont largués à 200 km des côtes de la Charente, Charente-Maritime et compagnie, qui sont tous des militaires, mais à la fois des jeunes polytechniciens qui ont passé leur brevet parachutiste et tout. En fait, la quasi-totalité arrive sur les côtes et arrive à l'endroit où ils doivent prendre leur sous-marin, à part ceux qui sont cassés une patte ou qui ont été malades et compagnie, parce que la population française joue le rôle de « on va les aider contre les gendarmes ». Ça, c'est fantastique. C'est un changement complet.
Et ça, c'est à partir de la fin des années 72.
Oui, c'est en 71-72, cet exercice.
Et donc, ça témoigne de quoi, selon
vous ? Ça témoigne à la fois d'un revirement, de dire on n'y croit plus, enfin, on ne croit plus à cet ennemi intérieur. Enfin, cet ennemi intérieur, c'est fini. Ces caches d'armes, les grandes caches d'armes qu'on a trouvées, tout ça, ça, c'est fini,
Anaïs, qui a une nouvelle archive que vous avez choisie dans les fonds, qui vous ont permis de faire votre feuilleton pendant 2 ans sur la guerre froide et donc son histoire.
Voilà, ça c'est une archive que nous avions beaucoup aimée avec Françoise Camard. Donc on a décidé de vous la reproposer aujourd'hui. Et peut-être sur ce sentiment, ce nouveau sentiment de sécurité, sur cette dédramatisation et aussi sur peut-être cette mise à distance d'un conflit qui paraît de plus en plus loin entre, d'un côté, les États-Unis et l'Union soviétique. Nous sommes en 1960, donc assez tôt par rapport à la chronologie que vous nous proposiez. Et ce qui est intéressant dans cette archive, c'est le ton du journaliste qui raconte un imbroglio diplomatique suite à la chute d'un U-2 et de son pilote sur le sol soviétique.
Midi Actualité, une émission de Maurice Hutin et Paul-Louis Mignon.
Hier soir, après 11 heures de délibération, après 11 heures de discussion, après 11 heures de consultation, le département d'État à Washington a enfin publié un communiqué. Là, les termes de ce communiqué, je ne dirais pas qu'ils sont embarrassés, je ne dirais pas en argot qu'ils sont en berlificoté, je dirais qu'ils sont saisissants. Ils sont saisissants parce que les Américains reconnaissent effectivement qu'un avion U-2 a pu aller au-dessus de l'Union soviétique et a pu y aller probablement, dit le communiqué, en mission de renseignement. Et immédiatement après, le communiqué déraille sur une voie, je ne dirais pas une voie de garage, mais sur une voie d'explication, admettant que la guerre de l'espionnage a toujours existé, sous-entendant qu'elle existera encore, disant expressément, mon Dieu, que si les Russes ne cachaient pas tellement leurs secrets, on n'aurait pas besoin d'aller chez eux pour essayer de les découvrir au service de la liberté et de l'humanité, évidemment, puisqu'il s'agit de déceler les risques d'une attaque par surprise. Évidemment, c'est une reconnaissance, et quand on sait, nous l'avons dit hier, nous le répéterons toujours, que les services secrets se font une guerre secrète et que cela est connu, mais cela ne sert à rien de le reconnaître, il faut ne pas se laisser prendre, et mon Dieu, le communiqué l'indique alors bien plus nettement qu'entre les lignes, on s'est laissé prendre la main dans le sac.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Une fabrique de l'histoire consacrée dans notre série sur la guerre froide, à la guerre froide vue d'en bas et cette archive de 1960. Effectivement, Philippe Buton est assez drôle parce qu'on voit bien le ton de ce journaliste de la Radio Nationale qui, disons, est un peu ironique, comme le disait Anaïs, vis-à-vis de cet événement qui semble d'une certaine façon être ailleurs et intéresser moins le sol français.
Oui, là, on est là aussi méthodologiquement, on a de gros problèmes parce que on a d'une part un éloignement temporel au regard de la guerre de Corée, qui est quand même la période la plus 1950-53, qui est la période paroxystique de cette guerre froide. Donc, plus on s'éloigne de cette période-là, plus il y a une tendance un peu à l'apaisement, mais avec quand même des poussées d'inquiétude qui réapparaissent de temps en temps. D'où le fait que nous, historiens, on a du mal à hiérarchiser tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'on doit multiplier les indicateurs pour voir véritablement un trend se dégager. Et donc, on a des phénomènes d'apaisement en 60, mais on aura d'autres phénomènes d'inquiétude en 61 lors du mur ou des choses comme ça.
Ce qu'on entend peut-être plus que l'apaisement, l'inquiétude issue, c'est la lassitude d'être pris dans des conflits qui ne concernent pas. Finalement pas tant que ça.
Absolument, mais ce sentiment-là, alors ça, ce sentiment d'extériorité, il apparaît avant tout à partir du moment où De Gaulle a établi son pouvoir. C'est-à-dire qu'en 62, là, c'est clair, net, précis, tout le monde est persuadé que la guerre froide n'existe plus. Et enfin, c'est une petite anecdote, on avait fait tout un autre travail avec l'Institut d'Histoire du Temps Présent, qui m'avait amené à travailler sur les manuels scolaires des cinq pays principaux, et c'est tout à fait fascinant. Dans tous les manuels scolaires, sans exception, dans les années 60 et 70, la guerre froide existe, tous, italiens, allemands, tous sauf la France. Il n'y a pas un seul manuel scolaire qui, après 62, parle de guerre froide. Voilà. Et donc, je crois que la France est sortie de l'imaginaire de guerre froide à partir de ce moment-là.
Alors, une nouvelle archive qui va nous permettre d'introduire un nouveau pan de notre discussion, c'est une archive de 1968, mais qui évoque un événement beaucoup plus ancien. C'est donc une archive en hommage à Gagarine.
En hommage à Gagarine, t'es peut-être un des grands héros planétaires qui traverse le mur de part et d'autre sans trop de soucis de son côté. Là, il s'agit d'une archive, d'un hommage, puisqu'il est mort, disparu.
Au commencement était l'échec. Puis il arriva que les hommes lancèrent un satellite. Et leurs fusées emportèrent des animaux dans le ciel. Il y eut le temps des chiens cosmonautes, il y eut le temps des singes. Un beau matin d'avril 1961, un car arriva sur une base où on lançait des fusées. Un homme en descendit. Enfoui dans un étrange scaphandre, on ne le reconnaissait guère. Techniciens et ingénieurs, cependant, s'affairaient. Et leur calme masquait mal la tension qui régnait partout. L'homme au scaphandre allait partir pour le cosmos. Le monde entier savait maintenant son nom, Youri Gagarine.
Voilà un hommage à Youri Gagarine. Il y a d'ailleurs dans votre ouvrage commun sur la guerre froide vue d'en bas, Olivier Buttner, un article de Xavier Desbrosses qui est très intéressant sur cette question de toponymie. Parce que tout compte fait, les cités Gagarine et les rues Gagarine, il y en a pas mal en France, et comme des rues Maurice Thorez d'ailleurs. Et donc ça veut dire qu'aussi, on peut dire que d'une certaine façon, la guerre froide pénètre dans les rues elles-mêmes et les places de nos villes, parce qu'on y met en avant des héros de l'un ou de l'autre bord.
Oui, rappelons alors, d'ailleurs que nous sommes au 116 avenue du président Kennedy.
Exactement, bien sûr.
Alors, je tiens à rappeler, alors, d'abord, pour cette enquête qu'a fait Xavier Desbrosses, je tiens ici à remercier la direction du courrier de la Poste.
Ah oui?
Parce qu'on a dû, avec le CNRS, monter pour avoir l'ensemble des noms de rue où c'était. On a travaillé avec eux, y compris dans des communes qui, des fois, changent les noms de rue.
Bien sûr.
Savoir quand est-ce qu'on avait. C'est grâce à eux qu'on a eu ça.
À quel moment on renie Gagarine
ou qu'on met, ou on renie. Non, justement, je vais en parler de ça. Et après, avec les journaux, le journal officiel, pour trouver à quelle date ça s'est fait, pour pouvoir écrire après aux municipalités en leur demandant l'ensemble du dossier. Donc tout ça, ça procède de ce qu'on appelle l'hommage public. Or, jusqu'en 1968, l'hommage public pour un nom propre doit être d'une personne qui est morte depuis au moins plus de 5 ans. Or, Gagarine décède en mars, d'un accident, en mars, si je ne me trompe pas, avril, pardon, 1968. Et vous avez à ce moment-là, arrive au ministère de l'Intérieur, une somme
de demandes de
rue Gagarine, mais qui sont basées sur le même modèle. Qui sont basées, à peu près toutes sur le même homme. Des fois, elles sont copiées. Hein. Même modèle, c'est dans notre ville, nous avons déjà le nom de gens qui ont fait les grands explorateurs, Vasco de Gama et d'autres comme ça. Gagarine en participe. Et c'est un exemple pour la jeunesse. Et vous avez toujours la même chose. Et à chaque fois, le préfet qui renvoie le dossier renvoie en même temps, dit « Je vous rappelle que le Parti communiste représente tant dans mon département. » Et donc, on prend une décision, il y a un arrêté au journal officiel, et là, vous avez la liste complète de toutes les rues, en 68. Mais on avait fait déjà la même chose.
De toutes les rues Gagarine ?
Gagarine. Et on avait fait à peu près la même chose pour Kennedy, puisque les noms Kennedy. Mais il faut savoir quand même qu'en France, existait, bien qu'ils n'étaient pas décédés, existaient des noms du maréchal Pétain d'un côté et du général de Gaulle de leur vivant. Donc voilà. Mais ça a été une grande discussion. Et cet article est très intéressant à la fois sur les marques comme marqueurs, à la fois pour Xavier Desbrosses démontre bien, en fait, pour les noms américains, on a c'est Roosevelt et Kennedy. Qu'en fait, si on reprend la remontée des troupes américaines, débarquement du 6 juin, débarquement du 15 août en Provence et les bases américaines, on retrouve les zones, quoi. Et c'est intéressant, l'article.
Oui, ça veut donc dire, effectivement, parce qu'il accompagne son article de cartes, ça veut donc dire qu'on peut cartographier des sortes d'ambiances liées à la guerre froide sur le territoire français par l'intermédiaire de ces baptêmes de noms de Russes.
Oui, oui.
Et il y a même des phénomènes un peu sauvages. Oui, on a en couverture une photo qui est intéressante où on voit une municipalité. Alors c'est drôle, c'est dans le monde d'hier, tout à fait par hasard. J'ai appris que Hermès avait donné beaucoup de travail aux ouvrières de gants de Saint-Junien. Donc à Saint-Junien pendant la guerre froide.
En Limousin.
Ils avaient de façon sauvage débaptisé
le boulevard Gambetta.
Le boulevard Gambetta qui devient Joseph Staline.
Mais ils ont laissé la pancarte
boulevard Gambetta. Pour une raison simple, c'est que c'est illégal. et donc, il y a toute une bagarre avec la poste et le préfet. Et le préfet dit, bon, écoutez, si vous continuez, le courrier ne sera pas distribué. Voilà. Hein, si vous appelez 17 boulevard Staline, on ne connaît pas.
Anaïs Kien.
On a la sensation, puisqu'on parlait de Gagarine à l'instant, on a la sensation que ce territoire de la conquête spatiale met tout le monde d'accord, grosso modo, en termes de coopération scientifique ou en termes d'imaginaire valorisé de cette période et de la guerre froide, cette émulation spatiale convainc relativement tout le monde. Il y a un enthousiasme populaire, en tout cas, à l'endroit de ces figures de la conquête spatiale, qu'ils soient américains ou soviétiques, qui emportent la majorité des voix.
Oui, mais alors là, pour le coup, il aurait fallu, mais ça aurait dépassé le cadre de notre enquête, mais faire un travail à l'échelle internationale. Parce que, notamment aux États-Unis, vous avez quand même la perception... Bon, certes, c'est un bonhomme qui tourne, mais enfin, ça pourrait être des bombes qui tournent. Donc, c'est...
Mais du point de vue de la France,
mais
on ne voit pas
France,
ce danger-là.
C'est l'aspect scientifique qui, indiscutablement, l'emporte à ce moment-là. On est donc là dans la phase de décélération. Ça, c'est clair.
Il y a tout de même une question qu'on peut se poser, c'est... Vous la posez d'ailleurs dans votre livre, c'est y a-t-il, comme on parle d'une culture de guerre pour la Première Guerre mondiale ou pour la Seconde Guerre mondiale, y a-t-il une culture de guerre froide ? Et vous n'arrivez pas à déterminer au bout du compte une véritable culture de guerre froide qui serait l'équivalent des cultures de guerre telles qu'elles ont été déterminées pour la Première Guerre mondiale ou pour la Seconde, Philippe Buton ?
J'aurais tendance à dire non. Quand on reprend les déterminants classiques de cette culture de guerre, on ne voit pas la même profondeur, aussi bien en termes d'intensité et en termes de durée. C'est-à-dire que dans les années 60, pour le coup, c'est terminé. Par exemple, prenez la musique populaire. Mmh. J'avais été très frappé en écoutant une excellente intervention de Didier Francfort sur la culture de guerre froide, de la musique de guerre froide, de voir qu'en fait, il ne parlait pas de musique de guerre froide. C'est-à-dire qu'en réalité, dans les années 60, il y a des musiciens anticommunistes, il y a des musiciens communistes, enfin, des chanteurs communistes, mais il n'y a pas de le seul qu'on pourrait estimer lié à cette époque-là, c'est l'Éricain de Michel Sardou, mmh. qui lui est clairement mais qui est très marginal à ce moment-là. Parce que lorsqu'on est nettement sur la guerre froide, c'est pour dire qu'elle est terminée. Le grand succès de 1966, c'est Nathalie de Gilbert Bécaud, où là, au contraire, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est pas du tout la guerre froide. Donc, la culture de guerre, moi, je la vois pas. En revanche, je vois la réactivation d'une très forte culture, qui est la culture communiste ou anticommuniste. Mmh. Ça, c'est, mais pas au point, je crois, qu'on puisse la différencier.
Analyse. C'est peut-être tout simplement lié au fait que l'expérience combattante dans des conflits très clairement identifiés comme des conflits armés de guerre froide est très minoritaire. Oui. Du point de vue de la France, on aurait la guerre de Corée, quelques centaines d'hommes.
Oui, la guerre de Corée, et même si vous prenez la guerre du Vietnam, est-ce que la guerre du Vietnam est vue par le prisme de la guerre froide? Pas du tout. Les seuls qui essayent de le faire, c'est l'extrême droite, mais ils sont ultra marginalisés. Au contraire, on est dans ce paradoxe extraordinaire que la guerre du Vietnam est perçue non pas sous l'angle est-ouest, est perçu sous l'angle nord-sud, avec une composante anti-soviétique. C'est-à-dire que les forces qui militent pour la victoire du Vietnam sont pas du tout des forces pro-soviétiques. Oui. C'est avant tout les trotskistes, les maoïstes, etc. Et d'ailleurs, une des hypothèses que je formulais, c'est cette spécificité française, parce que c'est une spécificité, de croire qu'on a échappé à la guerre froide à partir de 1962, grâce à De Gaulle, mais ça on le dit pas, mais on y a échappé, explique pourquoi les événements de 68 seront aussi puissants en France. C'est-à-dire que en Allemagne, vous avez du mal à vous sortir de la guerre froide, parce qu'ils sont pas loin. Alors que en France, vous pouvez parfaitement être anti-De Gaulle, anti-américain, anti, etc., etc., sans être du tout, sans croire que vous êtes un instrument soviétique.
C'est-à-dire que le degré de protestation n'a pas de limite pendant mai 68 en France, alors qu'en Allemagne, il est très vite bridé par le contexte politique et la séparation.
C'est l'hypothèse que je formule.
Oui, Olivier Buettner, sur cette question de culture de guerre froide, qu'est-ce que vous en pensez vous-même?
C'est vrai que, j'allais dire, il y a un autre point qui a intervenu, c'est quand on commence à avoir des armes nucléaires balistiques, et quand on commence à avoir les Plutons. Donc on dit, on va défendre la frontière. On redevient une défense non plus du territoire frontière, ça ne sera pas chez nous. S'il y a un bombardement atomique, ça sera chez les Allemands, ça ne sera pas chez nous. Ça apparaît quand même, hein, y compris chez les militaires. Ce que je disais à Philippe, en fait, j'allais dire, les autorités qui s'occupent de ça, l'inspection générale de la défense du territoire, les militaires, continuent jusque dans les années 70 à avoir cela en tête. C'est leur métier, d'ailleurs. Hein,
donc là, on parle des militaires.
Des militaires, tout ça. Je disais à Philippe, on parlait tout à l'heure dans l'entrée, j'ai longuement discuté avec un inspecteur général de la défense du territoire qui était en poste en 74, et qui me disait, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait, par exemple, vous savez, les voitures Méhari, voitures Citroën, il y avait deux fichiers, les Méhari que possédait tout un chacun et qui pouvaient servir de véhicules rapides comme une Jeep, et les Méhari qui étaient possédés, dont les membres du Parti communiste ou des CGTistes très marqués étaient bien.
En 74, on fait un fichier pour ça.
Ce général, il y avait un fichier qui existait encore. Ouais.
Donc ça veut dire que ce qu'il faut dire, pour nuancer ce que disait Philippe Buton, c'est qu'il y a des secteurs de la France, des secteurs en particulier de la sécurité en France, qui continuent à être sur un paradigme de guerre froide quand le reste de la société ne l'est plus. C'est ce que vous voulez dire, Olivier Buettner.
Oui.
Et en même temps, on en fait quoi de ces fichiers de Méhari?
Voilà, ça reste. Mais ils sont dans les archives. Voilà. Mais deux points sur les marqueurs actuels de la guerre froide. Ouais. Qu'est-ce qu'il en reste? veux dire, au jour d'aujourd'hui. Deux choses, les questions parlementaires, très intéressantes. L'ensemble des représentants des troupes, des appelés du contingent qui ont servi en Allemagne et en Autriche, et qui demandent à voir, parce que ça existe pour les Anglais et les Américains, la Cold War.
Une décoration de guerre froide.
Et comme, d'après les textes en français, ça ne se peut pas, vous avez des gens, vous avez des associations qui ressortent la médaille d'occupation du Rhénanie-Palatinat de 1920, sur lequel ils mettent une médaille guerre froide.
Ah, d'accord.
Et deuxièmement, vous avez un marqueur local, ce sont les cimetières auprès des troupes des bases canadiennes. Les Canadiens ne ramènent pas leurs morts
au Canada.
Au Canada. Et vous avez les cimetières inaugurés en 2001. C'est très émouvant. Et en fait, ce sont, dans le cadre de l'OTAN, ce sont tous les enfants qui sont morts à la naissance. La mortalité infantile était très forte. Et vous avez les cimetières dans chaque base. Et c'est signé sur famille. Registre présenté au village de tel endroit, des familles ont été inaugurées à tel endroit, alors que les forces canadiennes servaient auprès de l'OTAN. Et dans toutes les bases canadiennes, vous avez ça.
Vous direz que c'est un marqueur sur le territoire.
Sur le territoire.
Merci à vous, Olivier Buttner, et merci à vous, Philippe Buton, d'être venu nous présenter vos travaux communs sur la guerre froide vue d'en bas qu'on peut lire dans un ouvrage paru il y a 3 ans au CNRS Éditions. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Jean-Guilain Mège était avec nous à la technique et Françoise Camard à la réalisation. Demain, nous continuons et terminons cette série, Anaïs, en nous intéressant à...
Se parler quand même, les opérations de coopération et d'échange pendant la guerre froide entre Américains et Soviétiques.
Malgré la guerre froide.